Hot Rock the Nation.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Salut tout le monde, bienvenue à vous à Radio Jardin pour une série d'émissions consacrées au jardinage et à l'histoire. Vous êtes au jardin potager de la Gloriette et vous allez, avec notre prof d'histoire géo Cédric Delaunay, découvrir une histoire du jardinage sous l'occupation. Salut Cédric.
Salut.
On se retrouve aujourd'hui sur un site dont on n'a pas l'habitude pour parler d'histoire. On est ici sur la plaine de la Gloriette et on s'apprête à visiter le potager de la Gloriette. Pourquoi on va au potager de la Gloriette aujourd'hui?
Avec l'ONAC, on a eu un projet...
C'est quoi l'ONAC?
L'Office National des Anciens Combattants. Donc un projet ambition régionale dans lequel... On a essayé de mêler plusieurs idées. La première idée, c'était de s'intéresser au quotidien des Français pendant la guerre. C'est vrai qu'on fait souvent de l'événementiel, les grands événements, les grandes dates, les opérations géostratégiques, enfin une histoire vue un peu d'au-dessus. Et là, l'idée était de partir d'en bas, de voir la France en bas, comme dirait l'autre. La France au quotidien et les difficultés des Français au quotidien, dont la première a été bien sûr l'approvisionnement. De l'autre côté, c'était l'idée de le rapprocher aussi des enfants d'aujourd'hui, dont on critique souvent leur manque de connaissance des fruits, légumes, animaux et poissons carrés avec les yeux dans les coins. L'idée était de leur faire découvrir des légumes, des fruits de l'époque, donc de les éduquer, hein, une éducation à la nourriture, et de voir comment en période de pénurie, leurs lointains ancêtres, comment ils ont dû faire, hein, pour pallier au manque. Et aujourd'hui, à l'époque, on vit aussi une époque de pénurie pour d'autres raisons, mais pénurie, cherté des légumes, des produits, voir un petit peu comment on peut faire pour se nourrir à pas cher, et puis découvrir de nouveaux goûts. Voilà, c'était dans ce double objectif qu'on a construit ça avec la ville de Tours.
Comment ça s'est monté cette histoire-là?
C'est un partenariat, j'allais dire, d'abord de relations avec le musée de la résistance et de la déportation
de Blois,
avec Laurent Kilikini, l'Office national des anciens combattants, donc Nathalie Paton, Anne de Grieck, qui s'en occupe au niveau départemental. C'est vrai qu'on s'est interrogé sur le sens des commémorations, etc. Et en voyant que ce côté-là de la vie quotidienne n'était jamais évoqué ou de façon très marginale. Quand on a lancé le projet, on a voulu faire une mallette pédagogique, trouver de quoi lire. Et on s'est aperçu effectivement que ce thème était relativement marginal dans les livres. Il fallait piocher en fait dans pas mal de sources différentes et souvent des livres qui peuvent paraître justement anecdotiques et qui ne sont pas reconnus pour leur valeur historique, etc. Mais c'est là qu'on trouve ce qu'on fait le plus de chiffres. Hein.
Finalement, voir les patates avec Pierre Perret de Claude Autant-Lara, c'est pas ridicule.
C'est pas ridicule. Finalement, ces films-là sont souvent un petit peu méprisés, mis à part peut-être la traversée de Paris, dans lequel on évoque clairement cette question-là.
Allez, on se met un coup de janvier.
Oh.
Janvier.
Je vais tenir frôle au dieu janvier. Janvier, tenir franc.
Rien du tout. Je lui casse la gueule.
Janvier, je vais tenir franc. Janvier, 45 rue Palimo.
Oui, on le sait. Plus un franc, plus un sou.
Mais laissez-moi le descendre.
Janvier.
N'êtes pas fou. On vous entend partout.
Salaud de pauvre.
Vous n'aurez même pas échappé au salaud de pauvre, hein, de la traversée de Paris, de Marcel Aimé, qui eut quelques problèmes à la Libération, mais ce n'est pas notre sujet. Quoique.
Et Claude Autant-Lara, je crois qu'il a mal fini aussi dans sa vieillesse. Il a eu quelques sympathies malencontreuses.
Dans la joie, nous allons découvrir les vertus et les saveurs des rutabagas, navets et autres topinambours
dont nos grands-parents nous ont dit tant de bien.
Ils en pensaient beaucoup de mal, mais on va voir que c'est pas si mauvais que ça, hein. Ça peut même être bon. Faut les préparer un peu quand même.
On va aller voir ça in situ. Alors Cédric, tu le disais tout à l'heure, pendant l'occupation, entre 40 et 44, et même après d'ailleurs, parce que c'est une situation de pénurie qui a duré longtemps, la préoccupation majeure des Français de l'époque, c'est survivre. Tout manque, en fait, pas seulement la nourriture, tout manque. Pendant l'occupation, les Français perdent 50% de leur pouvoir d'achat, et en moyenne 10 à 12 kilos par individu. Et puis pour en avoir aussi discuté avec ma grand-mère maternelle, à qui j'avais dit, dis donc, dans la famille, on était plutôt maréchal ou plutôt général ou machin, elle m'a dit, oh bof, mon petit gars, on avait d'autres préoccupations, qui étaient surtout de trouver à manger. Il y avait à la maison des enfants en bas âge, le père n'était pas là. Nos préoccupations gravitaient pas tellement autour du maréchal ou du général, mais surtout de trouver quelque chose à mettre dans l'assiette le soir.
C'est une préoccupation qu'on a longtemps oubliée en histoire. C'est-à-dire que finalement, on fait, ce que je disais tout à l'heure, une histoire un peu surplombante des choses, et très politisée, etc. Tout en voyant que le quotidien des Français, ça n'a pas été d'être des héros ou des salauds. Ils ont pu avoir leurs avis, etc. Mais effectivement, la première tâche consistait à nourrir sa famille, à éviter les bombes anglaises, à éviter les fusils allemands. C'était compliqué. Moi, mon grand-père racontait toujours que la seule fois où il a eu un problème en fait, avec des gendarmes, c'est quand il avait dû aller à la campagne sur son vélo pour aller chercher du lait pour sa petite fille, parce qu'il n'y avait pas assez de lait. Et à la ferme, il s'est retrouvé nez à nez avec des gendarmes qui aussi cherchaient des bidons de lait pour leur propre famille. Bon, lui, comme il était un peu grande gueule, il s'est branché avec eux, les gendarmes lui ont demandé ses papiers, etc. Il a dû aller jusqu'à la commande en tour pour aller récupérer ses papiers, en justifiant qu'il allait se promener à vélo dans la campagne, qu'il n'avait pas grand-chose à y faire, si ce n'est faire du, non pas du marché noir, mais récupérer au marché noir du lait. Voilà, ça a été la réalité quotidienne des Français, et ça a été la plupart des histoires des Français pendant la guerre. En fait, pour comprendre les pénuries, déjà, il faut comprendre que le système agricole français, avant même la guerre, est déjà extrêmement archaïque. Il faut imaginer une France qui ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui.
La France est essentiellement rurale.
Oui, oui. Ce qu'on appelle la transition urbaine, en fait, n'est atteinte qu'en 1931. 1931, c'est là où il y a le plus d'urbains que de ruraux. Mais la France reste un pays très, très rural et très agricole. Alors, par exemple, sur le département de l'Indre-et-Loire, en 1939, hein, il y a un recensement du matériel agricole qui est fait. Il y a 400 tracteurs et 3 moissonneuses pour tout le département, alors que c'est un département vraiment à dominante agricole, plutôt riche, comparé aux départements agricoles que peuvent être ceux du centre de la France, des marges montagnardes du Massif central, etc. On est dans un département plutôt riche et on se retrouve avec 400 tracteurs et 3 moissonneuses. La force tractée, en fait, ce sont les chevaux encore, hein, 35 000 chevaux et 3 000 ânes et mulets, qui servent à tirer les charrues. C'est ça la France de l'époque, c'est des toutes petites exploitations agricoles. La moyenne de superficie, c'est 5 hectares. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent avec un matériel très archaïque et qui font essentiellement de l'autoconsommation. Les surplus alimentaires sont déjà, avant la guerre, relativement restreints et la nourriture coûte cher. Je dis des banalités pour les gens qui sont un peu âgés, etc., qui ont vu ça, mais pour les plus jeunes, ça les surprend toujours de comprendre que la nourriture coûtait cher, qu'on ne mangeait pas de la viande tous les jours. Déjà, on est dans une situation relativement précaire. Alors ensuite, qu'on a enjolivé après la guerre, bien sûr, c'est devenu un espèce de mythe de l'âge d'or, c'était formidable, etc. Mais on est face à une France qui est pauvre. C'est un pays qui est pauvre. Et bien sûr, quand il va y avoir le choc de la guerre, de la défaite, il va y avoir une série de déflagrations qui vont faire que le système agricole français va complètement s'écrouler. Et souvent, on dit ce sont les réquisitions allemandes qui ont entraîné la disette française pendant la guerre. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça va continuer très longtemps après la guerre, parce que les kids rationnants, par exemple, continueront jusqu'en 1947, jusqu'au plan Marshall, où effectivement les Américains arriveront avec leur cargaison de blé, de bœuf, de lait, qui permettront de redonner à manger aux Français correctement.
Cédric, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avant même le déclenchement de la guerre en 1940, la nourriture coûtait déjà cher. La viande, le fromage, c'était des luxes.
Oui, c'est-à-dire que l'alimentation courante du Français, ça reste les pommes de terre, le pain et une soupe de légumes plus ou moins variée. Alors bien sûr, il y a des différences selon les niveaux sociaux. Dans les milieux populaires, hein, je ne parle pas de milieux pauvres, je parle de gens qui travaillent, je ne parle pas de gens miséreux. Hein. C'est le quotidien, c'est une soupe un peu garnie avec du pain et un morceau de lard.
Alors peut-être déjà avec une différence entre les urbains et les ruraux. Voilà. On mange certainement plus varié et peut-être mieux à la campagne.
Ça dépend là aussi le niveau social, c'est-à-dire qu'il y a des... On tue le cochon. Traditionnellement, on tue le cochon en décembre, ce qui fournit de la viande qu'on va saler au fur et à mesure. Donc on mange plutôt pas mal de viande en période hivernale, mais ensuite ça se restreint. Alors il y a les petites volailles. On mange de la volaille. Mais ce qui est significatif, c'est de voir les repas de fête, de mariage, etc. Alors aller chercher dans les greniers les cartes de menus de mariage de vos arrière-grands-parents. On s'aperçoit qu'on mange, mais de façon mais incroyable. Il y a 5-6 plats de viande, etc. Et en fait, ça marque véritablement la rupture avec le quotidien. C'est-à-dire que ce jour-là, il faut que tout le monde s'en souvienne. Donc on va faire gras, mais vraiment très gras, quoi. On va manger 4-5 plats de viande pour que ça reste dans les mémoires et que ça tranche véritablement avec le quotidien où justement la viande reste... En général, une fois par semaine.
Dans certains mondes paysans africains ou indiens, quand on marie le fils, la fille, etc., bah on s'endette pour le mariage, pour acheter un mouton, une vache, pour que les gens, en mangeant de la viande, se souviennent de ce jour-là. Mais en fait, notre France des années 30 ressemble un peu à ce que peuvent vivre certains paysans indiens ou africains.
Oui, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Quand on voit les slums de Mumbai ou les favelas de Rio en leçon de géographie, je leur fais... tout compte fait, c'est pas si différent de la réalité française de la fin du 19e, hein. Je veux dire,
des bidonvilles d'Aubervilliers voilà. 1945.
Voilà, donc l'insalubrité, le côté précaire de l'habitat, les maladies qui rôdent, on voit ça dans Voyage au bout de la nuit, je veux dire, les fièvres typhoïdes qui massacrent les quartiers populaires dans les années 1930, c'est une réalité qu'on a complètement oubliée. Alors effectivement, les drames de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale on fait qu'on a une vision un peu mythifiée de cette France triomphante, la plus grande France, le colonialisme, etc. Mais la France était un pays extrêmement pauvre, avec des populations qui avaient déjà du mal à se nourrir. Alors quand va arriver la défaite, c'est un vrai drame. Donc en 1940, hein, la France connaît une défaite militaire terrifiante en mai-juin 1940, avec une offensive allemande fulgurante hein, qui conduit à l'armistice hein, qui est accepté par les Allemands le 22 juin. Sauf que les Allemands ont fait de très nombreux prisonniers, notamment dans la... Souvent on a caricaturé l'armée française en désagrégation, mais elle s'est surtout désagrégée à partir du 17 juin. Où là, le front s'est complètement effondré et les soldats ont globalement arrêté de combattre, sauf sur certains points de résistance sur la Loire. Mais les Allemands, entre le 17 et le 22 juin, ont fait des centaines de milliers de prisonniers qu'ils ont emmenés en Allemagne et qui vont rester en Allemagne pendant 5 ans, qui seront libérés en 1945, voire au-delà, hein, qui rentreront seulement en 1945. Et c'est autant de bras qui vont manquer dans les champs, mais aussi dans les usines, bien sûr, mais là, on est sur la question agricole. Et donc, les femmes vont devoir travailler à la place, et comme on est dans une agriculture qui utilise encore beaucoup le moyen manuel et la force musculaire, il va manquer de la force musculaire pour actionner les charrues, ramasser le blé, etc., moudre. C'est le premier problème, c'est le problème humain, il va manquer des bras. Alors on a beau recruter des GTE, hein, des groupements de travailleurs étrangers,
Alors des Espagnols qu'on a récupérés, des coloniaux qu'on fait venir aussi, hein, avec des choses qu'on a oubliées, hein, par exemple des Vietnamiens qu'on a balancés au fin fond de la Camargue, qui sont tous quasiment morts, hein, ce qu'on appelle les Kongbin, hein, 25 000 personnes qui ont été transbordées depuis leur Vietnam natal, où ils ont été quasiment raflés, et qui ont été crevés au fin fond de la Camargue, sans alimentation ni quoi que ce soit. Dans nos régions, il y a beaucoup d'Espagnols, hein, de gens de pays neutres comme ça, qui ont été expédiés dans les champs pour aller bosser. Mais on manque de main d'œuvre.
Donc Cédric, il faut le rappeler, hein, la population française va souffrir beaucoup pendant l'occupation. Cela dit, la France jouit, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, d'une situation d'occupation qui est un petit peu différente. Hein, si on compare par exemple à ce qui se passait sur le front de l'Est, il n'y a rien à voir. Cela dit, la France est littéralement pillée par les nazis. Ça, c'est une chose que j'avais pas bien réalisée, mais en 1944, à la libération, les gens sont exsangues. Il n'aurait pas fallu que l'occupation dure plus. Comme on le disait en début d'émission, les gens ont perdu en moyenne 12 à 15 kilos par individu.
C'est un pillage qui est totalement rationalisé. Alors, il est rationalisé à l'échelle européenne, où très clairement le pillage se fait en fonction de la vision raciale allemande. C'est-à-dire que les Slaves ne valent rien, donc on va leur piller beaucoup. Les Juifs ne valent plus rien, donc les rationnements de ghetto effectivement dégringolent en 1942 et avant d'être exterminés. En gros, il faut fournir la quantité de nourriture nécessaire à la population pour qu'elle soit un peu capable de travailler. Mais la France est dans l'Empire allemand, hein, tel qu'il se constitue en 1942, est très clairement le pays potentiellement le plus riche et le plus producteur de céréales, de biens agricoles, bien supérieur à ce qui se fait en Pologne ou ce genre de choses. Et donc, la France va être pillée de façon effectivement très rationnelle. On estime que les calories disponibles, hein, officiellement, hein, par Français, c'est 1300 calories jour. Pour rappel, ça fait à peu près la moitié de ce qu'il faut consommer pour renouveler ses forces. Ce pillage, alors, il est à destination, un, de l'armée d'occupation, deux, pour ravitailler l'Allemagne, car la grande peur d'Hitler, c'est que se reproduise le même phénomène qu'en 1918, à savoir que la population allemande, l'intérieur, se retourne contre le gouvernement, du fait du manque de nourriture, hein, qu'avaient eu à subir les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et qui avait conduit, en partie, hein, c'est pas la seule raison, mais qui avait conduit à la révolution qui a fait chuter le Deuxième Reich et l'empereur Guillaume.
La révolution spartakiste. Hein.
D'abord la révolution social-démocrate, celle de novembre, ce mécontentement populaire, il va aussi se traduire effectivement avec les divisions du socialisme allemand, hein, par la révolution spartakiste de janvier 19. Alors, il y a ce pillage-là à destination de l'Allemagne et de l'armée d'occupation, mais il y a aussi un souci pour le gouvernement de Vichy, etc., c'est le ravitaillement des grandes villes. Alors notamment pour la Touraine, etc., c'est le ravitaillement de Paris. Et donc vous avez une administration centrale du ravitaillement qui est chargée de transférer de l'espace rural et agricole vers les grandes villes, de quoi nourrir ces grandes villes qui subissent des situations de pénurie bien plus alarmantes que les campagnes. Parce que comme on verra, en campagne, il y a toujours les moyens de se débrouiller. Alors, il y a le système D, aller dans les bois, ramasser des glands, on faisait de la farine de glands, on allait braconner le lapin. On m'a même raconté comment on pouvait choper des biches avec des pièges, d'accord, avec des espèces d'arbres tordus qui permettaient de foutre la biche par terre, de l'attraper par le cou et de se débiter une biche comme ça, tranquille. À la campagne, on peut toujours se débrouiller, on peut cacher un peu de nourriture, etc.
Sans braconner, enfin, on peut aussi connaître un fermier, enfin, quelqu'un voilà. Qui vous vend des œufs, un bout de jambon.
Voilà,
enfin.
Cacher une poule, c'est facile. En ville, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est ordinaire ce que tu me dis, parce que j'ai fait beaucoup de reportages à la campagne. Ça m'arrivait un nombre incalculable de fois au cours des années 2000 qu'un paysan, un vieux paysan me dise « Ah là, mais si les Boches revenaient, je ne sais pas ce que vous feriez en ville. » J'ai entendu ça, tu ne peux pas savoir combien de fois cette mémoire vivace de la privation, encore vivante dans les années 2000, 60 ans après. Ou alors quand tu bois un coup avec un paysan après un reportage, ben voilà, ça m'est déjà arrivé d'entendre encore un que les Boches n'auront pas.
Ah oui, bah ça c'était vraiment mon grand-père. Ça. Quand il vidait une bouteille, il faisait toujours ça que les Boches auront pas. Donc, c'est quelque chose qui est resté très prégnant dans la mémoire. C'est pour ça que ce projet me semblait très intéressant, parce que justement, il colle à la mémoire des Français et tout compte fait à leur vie quotidienne. Tout compte fait beaucoup plus que les débats politiques entre giraudistes et gaullistes. ça leur passait un peu au-dessus de la tête, quoi.
Tiens, d'ailleurs, on va s'écouter cette archive de privation. Vous connaissez tous cette technique qu'avaient les femmes de l'époque pour compenser l'absence de banilon.
Mais la dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. C'est facile et pratique. Il suffisait d'y penser. Et déjà, vos élégantes ont remplacé la jarretière par le pinceau.
Donc les années 40, bah, beaucoup d'inventivité.
Beaucoup d'inventivité pour pallier au manque du quotidien.
Tout manque. Hein, pourquoi les semelles de bois? Parce qu'il n'y a plus de cuir. Même la ficelle manque.
Oui, la ficelle manque pour effectivement entourer les bottes de paille. On n'a plus de ficelle. Donc il faut voir qu'ils sont confrontés à toute une série de problèmes et de confiscations autoritaires de leurs biens agricoles qui obligent à une inventivité incroyable. Alors juste par exemple un chiffre. Hein, en 1942, l'Indre-et-Loire produit 125 000 quintaux d'avoine, d'accord, donc indispensable à l'époque pour la nourriture des troupeaux, etc. 100 000 sont réclamés par l'administration centrale du ravitaillement pour alimenter Paris ou qui partent en Allemagne, soit les trois quarts. En avril 1941, par exemple, les Allemands demandent 728 bovins par mois. Or, le département n'en produit que 600. Alors, comment on fait? Tout est raflé. Il faut imaginer des gens qui vivent dans une pénurie incroyable. L'administration, alors c'est bien parce que les sources, alors là, sont chiffrées, on a tout, hein, il suffit d'aller voir.
Les archives sont impitoyables.
Sont impitoyables. Et dans l'Indre-et-Loire, par exemple, entre 1938 et 1942, on avait une comptabilité des bovins, etc. Alors, il y a moins 12 000 vaches, moins 3 500 chevaux, moins 4 000 moutons. Donc, on enlève à manger les vaches, on enlève le lait, mais avec les chevaux, par exemple, on enlève la force motrice essentielle dans les campagnes. On a vu qu'il n'y avait pas de tracteur, hein, ou quasiment pas de tracteur. Et donc, on enlève la force motrice et la capacité à produire de la nourriture. Donc, on est là dans un système agricole qui était déjà précaire, fragile, et qui est complètement désintégré, en fait, par la guerre, par manque d'hommes, par les pillages et par le manque de matériel agricole. Mais il y a aussi un autre point, c'est la ligne de démarcation. Si on regarde en Indre-et-Loire, par exemple, la ligne de démarcation coupe le département en deux, ce qui est un cas un petit peu singulier, hein, cette ligne de démarcation. Et la grande laiterie qui collectait le lait pour l'Indre-et-Loire est à Ligueuil, en zone sud. Mais la majorité des producteurs se trouvent en zone nord. Et le passage du lait de zone nord en zone sud est quasiment impossible. Alors les Allemands ont essayé d'assouplir un peu les choses, parce qu'ils voyaient que ça posait de vrais problèmes de conservation d'un produit qui était recherché et qui en plus se fait rare. Et là, des millions de litres de lait ont été perdus par des problèmes de conservation qui étaient liés purement à des problèmes administratifs. Donc il faut imaginer un paysage rural et agricole complètement dévasté. Et c'est là que va jouer l'ingéniosité et l'inventivité pour contrecarrer ce problème.
Tap, des semelles en bois, ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme de dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon, ah que c'est bon, mais que c'est bon.
Alors Cédric, l'occupant nazi a pensé à tout pour que les gens puissent renouveler leur force de travail. Ils ont droit quand même à un certain nombre de calories par jour.
Oui, alors il ne fallait pas être très exigeant. Alors le pain, par exemple, en 1940, c'est 350 grammes par jour et par personne. On tombe à 300 grammes, donc ça fait une grosse baguette, quoi. Une baguette, c'est 250 grammes.
Il faut rappeler que le pain constitue l'essentiel de l'alimentation des gens de l'époque.
Et donc là, 300 grammes de pain par jour. Alors c'est une moyenne, hein, parce que là, je vous donne les quantités officielles auxquelles avait le droit la population avec les fameux tickets de rationnement. Tickets de rationnement qui, d'ailleurs, ont été mis en place dès 1939, avant même l'occupation. Hein. Déjà, on avait prévu que ça serait problématique et que la guerre serait difficile. Donc 300 grammes de pain et on a droit par exemple à 100 grammes de viande par mois. Donc 3 grammes de viande par jour. Vous avez droit à 40 grammes de fromage par semaine. Donc 6 grammes de fromage par jour. Café, c'est 150 grammes par mois.
Et encore faut-il qu'il y en ait parce que on a beau avoir des tickets, faire la queue, on n'est pas sûr d'être approvisionné malgré tout.
Effectivement, ce sont les quantités théorique disponible, mais comme on l'a vu avant, par exemple, toutes les vaches du département sont envoyées en Allemagne ou vers Paris.
Même pour les 3 grammes de viande, on peut repasser.
Voilà,
quoi.
Donc les 3 grammes de viande, vous pouvez ne pas les voir. Hein. Donc les commerces ferment. Dans les images d'archives, on voit plus de pain, plus de lait, plus de ceci, plus de cela. Évidemment, parce que malgré vos tickets, ça vous donne le droit d'acheter. Mais il n'y a pas forcément la quantité disponible en face chez le marchand.
Et alors quand on arrive à toucher le produit, encore aussi faut-il évoquer la qualité du produit en question. Moi j'ai entendu parler d'histoires de pain où il n'y avait pas que de la farine, hein, et de la sciure de bois.
De la sciure de bois, tout ce qui pouvait traîner. Effectivement le pain est de très mauvaise qualité.
On parle de pain noir.
Je me rappelle toujours de mon grand-père, effectivement la mode était au pain noir dans les années 80-90. Et lui, il repoussait ça en disant « Oh là là, c'est bouffé pendant la guerre cette saloperie, on veut du pain blanc, d'accord, du pain avec du blé, bien blanc, sans écosse, sans rien. Voilà. » Effectivement, le pain noir, il appelait ça le pain de boche, d'accord. Il voulait pas le voir, le pain de boche. Ça, c'était pas possible.
Frappé directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
En fait, pour être sûr d'avoir quelque chose dans les magasins, les personnes un petit peu aisées achetaient les services de ce qu'on appelait une queutière, qui faisait la queue pour vous, avec vos tickets, alors qu'ils se levaient très tôt le matin. Et qui prenaient des tickets de caisse de 2-3 personnes un peu riches. Et c'était leur métier, elles faisaient la queue hein, pour être les premières à les choper et essayer d'avoir quelque chose dans les magasins. On affiliait aussi les gens à certaines boutiques pour essayer de rationaliser au maximum. Mais on s'aperçoit que cet effort de rationalisation de la part de l'administration est complètement vain et finit par être complètement absurde, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas les produits, on voit un système très administratif, très bien organisé, avec des bons, des coupons, etc. Mais ça tourne à vide, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bouffe, tout simplement, il n'y a rien à vendre. Et donc forcément, les gens, là, ça va être marché noir, ersatz, ça va être système D, pour tenter de trouver de la nourriture.
Le marché noir, hein, c'est acheter sous le manteau. Alors peut-être que les plus jeunes auditeurs vont peut-être rigoler quoi, à l'idée qu'on puisse vendre du beurre ou un saucisson comme aujourd'hui on vendrait de la drogue.
Bah oui, mais c'était exactement ce qui se passait. Ensuite, ça prenait tout un tas de formes différentes. Soit c'est le producteur qui allait vers les consommateurs, soit le consommateur qui devait aller chez les producteurs à la campagne pour récupérer les produits. Mais par exemple, en avril 40, un kilo de sucre, ça coûtait 7 francs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier un peu qualifié, etc., gagnait 700 francs. 7 francs, un kilo de sucre, c'était relativement démocratisé. Hein, ça, c'était plus le produit luxueux de la fin du 19e. Les gens pouvaient consommer du sucre. Un kilo de sucre se vend en février 44 au marché noir 155 francs.
La moitié d'un mois de salaire d'un ouvrier.
Voilà, exactement. Donc, c'était devenu un produit complètement intouchable sur le marché noir et sur le marché officiel. Alors, en théorie, vous aviez droit à 500 grammes par mois, mais ils n'existaient pas, 500 grammes, vous ne les aviez plus. Les prix étaient réglementés. Quelqu'un qui vendait du sucre n'avait aucun intérêt à le vendre sur le marché légal, parce qu'il vendait à prix plafonné et légalisé par l'État. Donc, bien sûr, il essayait de cacher le sucre et de le vendre au marché noir, où là, il gagnait énormément d'argent.
Agriculteurs, vous avez encore chez vous un ou plusieurs sacs de blé. Livrez le plus tôt possible ces fonds de grenier qui suffiront pour combler le déficit. Sachez-le bien, ils ne seront affectés qu'à la soudure. Paysans, vous n'hésiterez pas à faire volontairement l'effort qui vous est demandé. Acte décisif de solidarité nationale. La mobilisation du blé est commencée.
Toutes ces histoires, effectivement, de soustraction de produits au marché officiel pour être vendus sur le marché noir, ça fait naître d'énormes tensions dans la société française, notamment entre les ruraux et les urbains. Les urbains reprochant aux ruraux de s'engraisser et de cacher de la nourriture qu'ils revendaient ensuite au marché noir.
Alors, on a tous entendu un petit peu, je ne donnerai pas de nom, hein, mais il y en a de célèbres, de fortunes qui se sont bâties très très rapidement, hein, entre 40 et 44, sur la pénurie et le malheur des autres. Il y a des gens qui s'affichent comme de bons Français,
qui ont amassé beaucoup d'argent pendant cette époque.
Mon grand-père était bijoutier. Il était bijoutier à Châteauroux, donc c'était en fait juste derrière, c'était en zone sud, mais pas très loin de la ligne de démarcation. Et il a raconté, non sans une certaine honte, comment il avait vu des gens arriver dans sa boutique alors le soir, au moment de la fermeture ou très tôt le matin, demandant un rendez-vous, si possible, nocturne, etc., lui apportant des bijoux qu'il a achetés pour des bouchées de pain avec des billets. Mais lui-même, en fait, il devait utiliser ensuite ses bijoux pour aller acheter du lait au marché noir. Donc, il utilisait le malheur de certains. Il dit notamment, j'ai vu des familles juives qui devaient être assez fortunées, qui devaient vendre absolument tout ce qu'ils avaient pour avoir un peu d'argent pour essayer d'atteindre la frontière espagnole, hein, sûrement. Et lui-même, ensuite, se faire dépouiller de ses bijoux pour aller acheter du lait. Voilà. Donc, il y a toute une espèce d'économie.